père, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour cet échange d'en parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Il est observé ces derniers temps plusieurs cas de reddition de groupes armés dans le Katanga, les provinces du Sud, Nord Kivu. Des centaines de milliers se sont rendus et ont déposé leurs armes. Certains observateurs estiment que cette volonté de se rendre relance encore les débats sur le mécanisme de désarmement, démobilisation et réinsertion. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 081-890-4969. Vous pouvez également rejoindre d'autres internautes sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs pour commenter ces sujets. Nico Kalamba et Willem Lungamba concourent à la production de ce magazine que vous présente Pierrot et la Meji sous la supervision de Martin Sebujango Fidèle. Les auditeurs, bienvenue à tous.
Paroles aux Auditeurs, pour participer, 081-890-6315 ou par Internet. pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembu.
Rappelons qu'au mois de février dernier, les FRDC, c'est-à-dire les Forces armées de la République démocratique du Congo, avaient salué le nombreux cas de reddition dans les régions. C'était au Kasaï, Ituri, dans le reste du pays, Nord Kivu, Sud Kivu, le Maniema. Et les FRDC avaient encouragé d'autres groupes armés de faire de même, d'écouter la voix de la raison pour pouvoir se rendre, déposer les armes, ainsi assurer et permettre à la population de vivre sereinement dans la paix et la sécurité. Et rappelons que dans les provinces du Kasaï, près des 600 miliciens avaient déposé les armes et tout cela c'était depuis le début de cette année, après l'investiture du nouveau chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On revient dans ces débats sur ces cas de reddition et rappelons quand même qu'il y a près de deux semaines dans la province du Sud Kivu, 200 miliciens se sont encore rendus et d'autres cas qui sont arrivés dans certaines localités au Nord Kivu. Comment arriver à formaliser et à poursuivre le processus de reddition de groupes armés? Le débat est ouvert dans sur notre standard au 081-890-4969. Marie-Paul, merci de nous avoir rejoint dans cet échange. Vous êtes à Kisangani. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Et bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi.
On vous écoute.
Oui, monsieur le journaliste, de votre constat, il faut faire l'autopsie des choses. Et lorsque vous faites l'autopsie de cette montée en puissance de l'activisme et des groupes armés, et quasiment partout en RDC, et vous allez vous rendre compte que cette résilience-là relève bien des pratiques de la RDC.
Oui, mais Marie-Paul... Oui. Marie-Paul, le débat que nous faisons, ce n'est pas sur l'augmentation des groupes armés ni la montée en puissance. Nous faisons plutôt les débats sur la reddition, sur les groupes armés qui sont en train de déposer les armes depuis le début de l'année. On a fait le bilan, les chiffres, vous l'avez dit sur la page Facebook.
Oui, justement, je voudrais lire là-dessus. Alors, monsieur le journaliste, aujourd'hui, les gens sont en train de remettre, c'est par rapport à cette pratique-là que la RDC a mise sur place, et cette pratique de réinsérer les militants, le rebelle dans les affaires de publiques du pays. Vous allez voir, si vous regardez bien, ceux qui sont aujourd'hui dans les affaires sont des anciens rebelles. Et c'est parce que les rebelles se rendent compte qu'en remettant les armes, en se rendant, remettre les armes, c'est aussi un objectif, c'est aussi une opportunité pour ceux-là qui avaient pris autrefois les armes de pouvoir entrer dans les affaires publiques de l'État. Et moi, je crois que cette façon de faire les choses fait même que les uns les autres s'arriment dans cette voie pour essayer de monter des guerres, pour essayer de faire des choses. Voilà pourquoi, en mon sens, je voudrais plutôt aussi que L'État doit mettre en place des mécanismes pour que ceux-là qui avaient pris les armes, ceux-là qui ont fait couler l'État, puissent d'abord répondre de leurs actes, pas les prendre immédiatement, les insérer dans les affaires publiques de l'État. Non, ça ne pouvait pas être ainsi. Même si ils remettent les armes, on doit d'abord les auditionner, on doit d'abord établir, dire la loi par rapport à tout ce qu'ils ont connu comme crime. Mais si on ne le fait pas, et que aussitôt qu'ils remettent les armes, on doit les réinsérer, on doit aussi les injecter dans des affaires, ça va aussi, par la voie des conséquences, entraîner les autres de procéder de cette façon. C'est ce qui fait même que nous avons aujourd'hui des gens qui s'affoutent des mœurs, des gens qui s'affoutent des droits de l'homme, c'est à cause de leurs pensées. Vous avez les paniers historiques. Il faut rééduquer ces gens-là d'abord, et il faut aussi que ces gens-là répondent de tout ce qu'ils ont commis comme des crimes avant que ces gens-là entrent dans des affaires. Mais si on va commencer à tout moment et qu'il y a des gens qui ont commis des crimes, qui ont fait des exactions, qui ont massacré les droits de l'homme et qui ont massacré la population, et qui viennent comme ça et on les confie, on leur donne des responsabilités au sommet de l'État, dans des responsabilités dans des places stratégiques de l'État, je crois que nous allons continuer à connaître les mêmes mouvements parce que les uns les autres vont commencer à copier avec la pensée selon laquelle on se rendra, on se récidivisant dans les groupes armés, en posant les actes de violence ou en devenant rebelle, une fois qu'il y a des négociations, et on doit nous insérer dans la gestion du pays, on doit nous insérer dans la gouvernance du pays, ce qui n'est pas une bonne chose. Je crois que ça, c'est de la négomanie. Le pays doit éviter la négomanie. On ne peut pas à tout moment négocier avec des rebelles, parce que des gens qui ont commis des crimes, des gens qui ont commis des exactions, ils doivent d'abord être punis. Pourquoi? Ça va donner des leçons aux autres de ne pas pouvoir commencer à utiliser avec ce qu'on appelle les paramilitaires, parce que les indices aujourd'hui, nous avons des gens qui prennent les armes, qui entrent dans la forêt, qui sont en train d'exploiter illicitement les ressources de la RDC. Et après, lorsqu'on apprend qu'il y a un tel groupe qui est actif dans tel coin, on demande, on procède par des négociations et on prend les mêmes récidivistes et les mêmes criminels qu'on les fait entrer dans la gestion du pays. Ça ne devrait pas se passer comme ça dans une république, dans un État qui veut que les dispositions ou la loi, la constitution soient bel et bien respectées.
Alors pour vous, Dieudonné, vous estimez que quand il y a de reddition de miliciens, il faut au-delà de tout, il faut d'abord qu'ils soient jugés, il faut qu'ils se présentent devant la justice parce que chacun doit répondre de ses actes. Il ne faut pas directement les intégrer ou soit dans l'armée, la police ou même dans la gestion de l'État pour éviter que cela n'encourage d'autres personnes à pouvoir s'élancer dans les mêmes pratiques de rébellion. Merci beaucoup, Marie-Paul. Pour vous, le fait de déposer les armes, cela n'indique pas qu'ils doivent être réintégrés automatiquement dans la gestion de l'État ou même dans l'armée ou la police. Il faut que ceux qui ont commis des crimes répondent de leurs actes. Merci beaucoup. Kachaï, vous êtes à Kananga, dans la localité de Kanyuka. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
On vous écoute.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Vraiment, le sujet est salutaire, dans la mesure où tous les miliciens, tous les rebelles sont en train de répondre à l'appel du chef de l'État qui avait demandé à tous les groupes armés négatifs qui sèment la terreur dans presque tous les territoires de la RDC, de pouvoir se rendre, de laisser les armes et qu'ils puissent commencer à prendre la RDC comme un patrimoine commun que nous partageons tous. Moi, je suis en train d'encourager tous ces militaires-là qui se rendent. Pourquoi? Parce qu'ils ont répondu à l'ordre du président de la République. J'ai cité le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maintenant, prenons le cas d'abord des miliciens au Kasaï, messieurs les journalistes. Les miliciens au Kasaï ont déposé les armes, mais beaucoup de ces miliciens-là sont des mineurs, des enfants vraiment. Ces enfants-là avaient demandé, j'avais suivi lorsque le gouverneur Kambayi était encore à la tête de la province, ils avaient demandé au gouverneur Kambayi à ce qu'il soit pris en charge par rapport à leurs études. Et les uns entrent à l'école, ils continuent avec l'école parce qu'ils sont des enfants, ils ne savent pas tenir les armes, ils n'ont pas de notion des militaires. S'ils vont commencer à opérer en tant que militaires, ils ne pourront pas s'en sortir. C'est ainsi que les gouverneurs avaient reçu tous ces médecins-là, ils ont déposé les armes et on avait cherché à ce que l'année prochaine, que les uns rentrent à l'école et qu'on puisse étudier les mécanismes pour voir que, si les autres pourraient être réinsérés dans les forces armées. Mais par rapport maintenant à la réinsertion dans les forces armées congolaises, monsieur le journaliste, il y a un problème. Parce qu'il y a certains militaires qui ont commis des crimes horribles, odieux à la République, et qui doivent surtout répondre de leurs actes. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Et parce que vous êtes militaire, vous avez œuvré dans la brousse, vous avez semé la terreur, vous avez pris les armes contre la RDC, on ne doit pas vous laisser comme ça. Mais il faut qu'il y ait aussi la sanction pour dissuader d'autres miliciens qui cherchent à prendre aussi les armes contre la RDC. Et là, tout en tenant compte du niveau de participation de chaque militaire dans les forces armées loyalistes. Il faut qu'on puisse initier un contrôle, messieurs les journalistes, nous insistons. Parce que certains militaires, certains rebelles qui sèment la terreur, collaborent avec nos militaires. Nos militaires, parfois, leur donnent les armes, leur donnent des munitions, leur donnent des tenues. Alors, il faudrait d'abord qu'on puisse initier un audit, un contrôle, pour savoir qui est vraiment militaire. Dans les forces armées de la République, il y a des militaires qui ont des grades qui ne leur ont pas été conférés par les autorités habilitées. Ils s'autoproclament, ils sont là. Parfois, ils quittent l'Est, ils viennent ici au Kassai. À l'Est, ils étaient apportés, mais ils viennent ici avec le grade d'un major, d'un colonel. Pourquoi? Parce qu'ici, on ne pourrait pas bien les contrôler. Alors, c'est pourquoi moi, je voulais m'apesantir sur ce, afin que cette situation-là ne se répète plus. Et
merci.
Aussi par rapport à l'encouragement de nos militaires pour qu'ils puissent toujours chercher à traquer les militaires, les contraindre, les rebelles, là, voulais-je dire, les contraindre à déposer des armes. C'est cet encouragement-là, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup, Kachaï. Merci, Kachaï. Vous avez évoqué les cas de ce qui est arrivé dans la région de Kassai. Rappelons que près de 600 miliciens, que ce soit au Kassai central et dans la province du Kassai, ont pu déposer les armes. Et vous l'avez dit, quand ils ont été reçus par l'ancien gouverneur Denis Kambayi, nombreux sont des mineurs. Et le grand problème se pose aujourd'hui, comment ces mineurs peuvent-ils retourner à l'école? Comment ils peuvent être encadrés? Ils avaient souhaité qu'à la rentrée scolaire prochaine, qu'ils trouvent le moyen d'être réinsérés. Mais est-ce qu'on peut étudier d'autres miliciens? Comment ils peuvent réintégrer les forces armées? Ça, c'est un autre débat, c'est à un autre niveau. Mais pour vous, vous saluez quand même le fait que ceux qui avaient pris des armes le déposent pour répondre à l'appel du chef de l'État. Et vous souhaitez aussi un contrôle à l'interne au sein de FRDC pour savoir combien ils sont, qui fait quoi, pour éviter qu'il y ait des ramifications entre les miliciens qui opèrent en brousse dans les groupes armés ainsi que les éléments loyalistes. Mais dans tout ça, il faut que l'armée puisse encore contraindre davantage les groupes armés à pouvoir déposer les armes. Merci beaucoup, Kachaï. Mahamahagi, c'est Dieudonné qui nous a rejoint dans ce débat. Et Dieudonné, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, bonjour à la grande famille et des paroles aux auditeurs.
On vous écoute, Dieudonné.
Merci beaucoup. En fait, le sujet est très intéressant et ça me pousse vite là à agir, surtout aussi par rapport à la réduction enregistrée par ci par là. En fait, d'abord, la réduction est une bonne chose. Ça contribue efficacement pour la consolidation de la paix. Et pourquoi pas même le développement de ces grands pays qui a longtemps souffert de ces fameuses histoires de groupes armés, incursions, tueries, ainsi de suite. Ce qui m'intéresse plus, c'est quoi en fait? C'est par rapport d'abord aux motifs et surtout aux objectifs. Et pourquoi ces gens sont en train de passer à cette réduction? Est-ce qu'ils subissent la pression? Est-ce qu'ils sont traqués? C'est ça. Et deuxièmement, est-ce que ils se réduisent pour aller pour distraire l'opinion publique ou soit seulement pour consolider effectivement la paix. Si je dis par rapport aux motifs et aux objectifs, en fait, chez nous, en Ituri, nous sommes tous conscients que ça a été le cas. On a vu déjà qui acceptaient de passer à la réduction, de déposer les armes la journée, mais le soir, ils sont là encore avec les armes et ils reprennent encore les chemins de la brousse. Et ce qui fait que depuis 2002 jusqu'à ce jour, l'Ituri n'a jamais retrouvé la paix durable. En fait, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la conviction de tous ces groupes armés qui quittent effectivement leur brousse afin de rendre leurs armes et de cohabiter ensemble et vivre ensemble, passer le temps ensemble. Si c'est le cas de rejoindre les forces armées, c'est possible. Si c'est le cas de cohabiter avec leurs frères, c'est aussi bon. Mais ce qui m'inquiète plus et ce qui me met toujours conscient de ce qui se passe là, c'est par rapport à ce qui s'est passé chez nous en Ituri. Parce que même avec le système de DDR, on a eu à démobiliser, on a eu même à désarmer, on a eu même à enterrer les gens. Mais malheureusement, la plupart de ces gens, ils ne se retrouvent pas. Et on a compris que c'était juste un mécanisme, parce que de contribution de gains, ces gens-là qui travaillaient plus pour le phénomène DDR, ils sont là, ils donnent le temps aux groupes armés. Et pendant la réduction, il se connaît et il se fixe quelques objectifs. Après avoir bouffé le peu qu'on leur a remis, il se transforme encore en brousse afin de tuer la population, afin de créer encore d'autres effets. En fait, pour moi, ma position actuelle est d'abord de revoir même le système de ce DDR, de voir comment on peut, une fois désarmé, consolider cette paix-là d'une manière durable. Ce n'est pas quelqu'un qui a aimé son arme aujourd'hui. Demain encore, on le retrouve avec une arme neuve et il est là en train de tuer la population, il est là en train de massacrer, il est là en train de réclamer qu'on lui passe ceci ou bien qu'il puisse avoir la promotion même au niveau des grades. Et je suis peut-être pour chuter. Je veux dire, parce que tous ceux qui ont commis ce crime-là, en appelant les armes, ils ont tué. Ils ont massacré, ils ont pillé le bien d'autrui. Et la justice qu'a faite, et aussi qu'on puisse réparer le coupable, réparer les victimes, que les victimes puissent effectivement retrouver leur bien détruit. Parce que si quelqu'un là, il prend les armes, il rentre, encore, on les prend et puis on les remet à la maison. Donnez-moi, est-ce que cela peut être vraiment la cohabitation pacifique? En fait, moi je dis, le gouvernement doit s'en charger pour revoir le système de DDR. Le gouvernement doit s'en charger pour activer aussi la justice, pour punir sévèrement tous ces coupables-là, ceux qui ont contribué, ceux qui ont pris les armes pour tuer les frères, pour tuer les sœurs. Mais surtout aussi, je dis à nos frères ituriens de partout, ils me captent à ce moment. Il est temps qu'on puisse détruire le Congo. Il est temps que nous puissions consolider la paix. Il est temps que nous puissions nous mettre ensemble. Refusons de porter l'arme, refusons effectivement de tuer nos frères et sœurs, et à ce moment-là, nous allons vivre paisiblement. Mais tant que nous avons les ambitions égaux, nous sommes manipulés, en tout cas, même s'il y a DDR, même s'il y a réduction, cela ne va pas payer. En fait, j'ai dit.
Merci beaucoup, Thiedoné, pour cet appel et surtout ce message que vous avez lancé à tous les ressortissants de la province d'Ituri pour dire qu'il faut refuser carrément l'arme. Mais dans votre argumentaire, vous avez beaucoup insisté sur l'encadrement, sur le processus DDR lui-même qui doit être assez souple et puis soutenu. Vous avez montré les exemples, n'est-ce pas, dans la province de l'Ituri, qui a eu des miliciens qui ont fait de la reddition, ils ont déposé les armes, mais parce qu'il n'y a pas eu tellement un suivi d'encadrement, des réintégrations au niveau de la société, et les mêmes personnes récupèrent encore les armes pour retourner en brousse, et vous souhaitez vraiment que le mécanisme d'aider soit revu, soit corrigé, soit renforcé, et pour éviter que le milicien qui dépose les armes aujourd'hui ne puisse encore le récupérer hier quand ils ne pourront pas trouver leur gain de cause, n'est-ce pas, dans la société, et surtout aussi la question de la justice et de la réparation ne doit pas être occultée au nom de la reddition. D'ailleurs, c'est ce point de vue qui est partagé par professeur Ignace Ndala sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Il dit ceci, plusieurs miliciens n'avaient pas de véritable motivation. Tantôt, c'était de raisons de survie, tantôt celle d'un conflit tribal ou une recherche des positionnements politiques constituant des petits courants de résistants face au pouvoir passé. Et il y a là l'expression d'un retour pour un petit gain des survies face à un pouvoir prêt à négocier pour sa réputation et son succès. Alors pour lui, il pense qu'il faudrait mettre assez de moyens et surtout socialiser cette volonté de ces personnes pour pouvoir les encadrer pour éviter qu'on tombe encore dans les frustrations du passé. Merci beaucoup, professeur Nassor. Vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot, bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio Capi qui sont branchés. Normalement, je salue cette thématique, mais Pierrot, tu sais, au Congo, nous avons un problème, c'est que moi j'appelle du génie. Tu penses qu'aux États-Unis, aujourd'hui, les États-Unis est devenu comme il se trouve aujourd'hui, parce qu'il y a des génies qui sont là en train de penser pour le développement des États-Unis, comme le David Livingstone, mais le contraire, ici chez nous, des gens qui sont en train de penser comment détourner, comment corrompre. Sinon, moi je dirais ceci, Pierrot, la méthode de désarmement a été encore agencée par le président honoraire et ça n'a rien apporté comme solution. Donc c'est un principe de non bis in idem, le fait de revenir des fois à une chose qui ne donne pas de solution. C'est quoi le problème, Pierrot? Tu sais que les gens qui sont entrés, de piloter, de gérer les choses publiques, et ils ne sont pas à la hauteur de leur tâche. C'est pourquoi moi je salue même la décision que le président a prise des miteux, des miteux gens.
Alors pour vous, Nassor, vous estimez que on ne peut pas attendre que les miliciens puissent déposer les armes eux-mêmes, il faut les forcer.
Normalement, il faut les forcer. Il y a d'autres mécanismes, parce que cela ne doit pas apporter des solutions. Il y a d'autres mécanismes qu'il faut faire, tels que la statistique, qui commence à faire une statistique, savoir combien de personnes qui sont dans l'armée, combien de personnes qui sont dans la police, et là, on aura à établir des solutions. Et renforcer même de forces de sécurité au niveau de frontières, c'est là où ça, les bas blessent. Pourquoi pas ces bas Goma? Pourquoi pas des troubles? Il n'y a pas beaucoup de troubles, c'est que chez moi, au Maniema. Donc, il y a un problème. Au niveau des frontières.
Voilà, pour vous estimez, Nassor, vous estimez que attendre la reddition volontaire des groupes armés, ça n'a pas marché, ça ne peut pas apporter des résultats parce que ça fait longtemps qu'il y a toujours des groupes armés pour vous et il faut carrément un désarmement forcé de ces groupes armés. Merci beaucoup. Mardoché, vous êtes à Gbadolité. Bonjour.
Et bonjour, je dis bonjour aussi aux à tous les auditeurs.
Mardoché, c'est parole aux auditeurs avec Pierrot.
Pardon, je vous suis...
T'as dit que nous sommes dans parole aux auditeurs, Mardoché.
Oui. Je dis ceci. À mon avis, les groupes armés n'ont pas le choix. Ils n'ont qu'à se remettre. Vous allez comprendre ensemble avec moi que tous ces groupes ont été entretenus par les politiciens du régime passé, avec la bénédiction aussi de leur autorité morale, je parle bien du président sortant. Alors, comme il y a maintenant un nouveau...
Alors, pour vous, mais Mardoché, vous portez là une accusation quand même grave. Vous estimez que dire qu'il y a peut-être, comme on l'a toujours soupçonné, même d'ailleurs le chef de l'État, dans son séjour récent au Nord Kivu, il a demandé aux élus de ne pas se solidariser avec les groupes armés. Oui, vous pouvez dire que des coups de groupes armés ont été entretenus par des politiciens. Ça, c'est un fait. Mais vous ne pouvez pas aller plus loin dans l'accusation, Mardoché.
Monsieur, je vous dis, vous êtes bien ensemble convaincu avec moi que dans l'affaire Kamina Sapour et dans l'assassinat des experts de l'ONU, il y avait un politicien, un député dont son nom a été cité dans cette affaire. Et après que le nom a été cité, il a quitté le pays pour se réfugier ailleurs. Et après l'arrivée du président, du nouveau président, il s'est revenu. Donc pour dire que il y a certains politiciens qui tirent les ficelles dans le noir pour leurs intérêts. Nous sommes tous au courant de tout ce qui se passe, même au Katanga, l'insécurité qui sévit à Katanga. Il y avait aussi des politiciens, donc l'information est claire. Donc comme il y a un nouveau président, ce président-là a bien dit qu'il ne va pas protéger ces politiciens qui vont se lancer dans cette affaire-là honteuse. C'est pourquoi les politiciens eux-mêmes se sentent en insécurité, il n'a pas demandé seulement à ces gens-là qu'ils sont en train de financer dans la bourse et de se remettre. Donc, à mon avis, je suis en train de craindre que cet acte soit un acte vraiment éphémère, parce que si les rebelles se remettent au gouvernement, qu'il n'y a pas le moyen ou la politique de leur encadrement, vous allez voir, dans peu de temps, ils vont encore regagner la bourse. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Je veux que le gouvernement puisse prendre en compte ceux qui sont en train de se remettre pour les encadrer.
Merci beaucoup, Martouchier. Vous insistez sur le fait qu'il y a beaucoup de ramifications entre les politiques et les groupes armés. Et d'ailleurs, le chef de l'État a insisté sur la rigueur, qu'il n'y aura pas vraiment de pitié pour un politicien soupçonné d'entretenir une milice. Et puis, un groupe armé, vous l'avez dit, et vous souhaitez d'ailleurs qu'il y ait des mesures d'encadrement, mais pour vous, la reddition, c'est plus les politiciens qui se sentent en insécurité et qui demandent à leurs miliciens de pouvoir rendre les armes et se présenter auprès des FRDC. Mais s'il y a des mesures fortes pour encadrer ceux-là qui quittent la brousse, il y aura moyen de pouvoir éviter que demain ils retournent encore dans leur lieu et leur champ de bataille. 081 890 4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine, mais vous pouvez également commenter ces sujets sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, Paroles aux Auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Paroles aux Auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur Internet, radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Omar, vous êtes ici à Kinshasa. Vous avez suivi le cours du débat avec nos auditeurs sur cette question de reddition de miliciens à travers le pays depuis le début de cette année, l'investiture du nouveau chef de l'État. Beaucoup estiment qu'il faut arriver aussi à consolider le mécanisme de leur réinsertion et réintégration pour éviter que demain, ils ne retournent encore en brousse, comme l'a témoigné, l'a dit tout à l'heure notre ami Dieudonné qui intervenait des Maagi. Bonjour Omar, et quel est votre point de vue?
Bonjour Pierrot et merci du verbe que vous m'adjugez. Je crois mes prédécesseurs l'ont bien dit et les experts en développement nous démontrent qu'il n'y a pas d'émergence sans la paix. Et la Bible qui est notre guide principal dit dans Hébreux 12:14, recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc Pierrot, la paix n'a pas de prix. C'est vrai, nombreux critiquent cette façon de s'y rendre, mais moi je pense tout moyen, fût-il plaisir aux autres ou pas, si ça amène à la paix, on ne peut que soutenir et encourager. Mais Pierrot, là où les bas blessent, là où les inquiétudes sont fondées, c'est par rapport aux conséquences de cet acte. Premièrement, je parlerai de la réaction de la population victime. Vous savez, Pierrot, à chaque action correspond une réaction. Aujourd'hui, où nous parlons, il y a encore des gens qui ont des blessures intérieures. S'ils voient certains grands rebelles du RCD, du MLC qui ont assassiné les gens, occupés des grandes fonctions aujourd'hui, il faudra penser à la réaction de la population par rapport à cela. Il y a une deuxième conséquence, l'intégration ou la réintégration sociale de ces gens. Vous l'avez vous-même dit. Il est démontré en criminologie que lorsqu'une personne évolue dans un milieu criminel, il devient plus fort criminel et formé. Il y a ce qu'on appelle des crimes pathologiques. À force d'avoir été rebelle pendant trop longtemps, même s'il réintègre la société, il abandonne la rébellion, il peut encore l'exercer. Il y a un autre problème sous l'influence des éléments. Ces gens-là se rendent. Est-ce qu'ils se rendent parce qu'ils veulent la paix? Ou ils se rendent pour venir infiltrer notre armée? Ou ils se rendent parce qu'ils n'ont pas de force? Il faut connaître leurs vraies intentions. Voilà pourquoi moi je dirais, par rapport à votre question principale, comment faire pour consolider ces mécanismes que j'encourage, même si ça ne plaît pas à tout le monde, mais ça amène à la paix? Premièrement, il faut préparer la population victime de ces rebelles à pardonner. Mandela l'a fait en 94, il sort de la prison, il a travaillé avec des clercs, l'homme qui l'a fait souffrir pendant plus de 27 ans. Il faut que les Congolais arrivent à pardonner. C'est vrai, il y a des crimes qui ont été commis, mais la paix n'a pas de prix. La paix est la seule solution pour développer un pays. Il faut préparer au travers des messages éducatifs, au travers des discours, dire à ces gens, c'est vrai, ils ont mal fait pardonner. Sinon, si on ne les fait pas très cher, Pierrot, vous savez que c'est ce qu'on appelle des crimes pseudo-justiciers. Il y a des gens qui voient, des gens qui les ont fait souffrir à la rébellion dehors, et puisque le pardon n'a pas été effectif, les gens la peuvent se venger un jour. Deuxième chose, vous l'avez dit, il faut une prise en charge sérieuse, holistique et intégrale. Une personne qui a été dans un milieu rebelle a développé une certaine chose.
parmi eux, il y a des drogués, il y a des alcooliques, ils font une certaine désintoxication. Il faut une prise en charge psychologique, voire même médicale. Et on a toujours remarqué ces gens, on se limite à déposer les armes, on les envoie à l'armée, on les envoie à intégrer la société, sans vérifier s'ils ont été pris en charge psychologiquement, criminologiquement, ainsi que médicalement. Autre chose, il faut bien écouter, je l'ai dit, l'entame de mon intervention, on ne connaît pas la vraie intention pour laquelle ils sont venus. Le chef de l'État a lancé un message, les gens viennent. Mais il faut mener des enquêtes internes pour savoir est-ce qu'ils ne sont pas venus infiltrer, est-ce qu'ils ne sont pas venus parce qu'ils sont faibles, quelle est leur vraie intention. Donc le tout se résume, très cher Pierrot, en remerciant les gens qui sont venus parce que la paix n'a pas de prix, mais en interpellant l'État sur la prise en charge réelle de ces gens. Pour le cas des mineurs, par exemple, une loi a été votée, je crois, en 2009, portant protection de l'enfant. La loi a prévu des mécanismes d'alphabétisation, des désintoxications, voire même des resocialisations. Il faudra les retourner à l'école, les scolariser aussi. Mais on a remarqué les anciennes rémissions qui ont eu lieu, on s'est limité à passer à la télévision, montrer les armes, et ces enfants sont encore à la rue. Nombreux parmi eux font ici à Kinshasa les phénomènes Kuluna. Donc les idées ont toujours été bonnes, les actes ont toujours été posés, mais la prise en charge a toujours posé problème. Moi je pense que si on initie ces mécanismes de prise en charge sérieuse, on peut toujours encourager, mais je dirais aussi au chef de l'État, il ne suffit pas d'appeler les gens à rendre les armes, non. La paix exige plus que cela, une armée forte, la socialisation des gens, parce que beaucoup font aussi les crimes parce qu'ils sont mal, et la justice sociale, parce que nombreux font la rébellion parce qu'ils veulent la justice. Voilà ma petite intervention, très cher Pierrot, je vous remercie.
Merci beaucoup Omar, la question de la réparation est importante, mais vous avez aussi demandé qu'il y ait une préparation au niveau de la communauté pour l'acceptation de gens qui déposent les armes, compte tenu aussi de passé criminel de certains, vous l'avez dit, peut-être que ça peut choquer les autres, parce qu'il y a beaucoup de compétences qui ont insisté beaucoup sur la question de la justice, mais aussi sur la question de la réparation, mais il faut aussi avoir de mécanismes au niveau de la société pour l'encadrement de toutes ces personnes, et avoir aussi l'idée, comme le disait tout à l'heure notre ami Mardoshi, est-ce que les gens qui déposent les armes, c'est l'intention vraiment réelle de la paix, ou bien ce sont les décisions des circonstances et qui demain puisse retourner encore à la case du départ. Bathier, vous êtes avec nous à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Radio Capi. Merci de m'avoir encore passé la parole. Je dois d'abord saluer tous nos compatriotes qui nous suivent, surtout ceux du Congo profond. Par rapport au point, je dirais que s'il y a réduction des groupes armés, ici j'interviens comme un habitant de Goma, bien que je suis Sankin. C'est-à-dire que cette réduction, ça montre juste cette confiance que la population et les groupes armés sont en train de montrer aux nouvelles autorités qui sont en place. C'est-à-dire que je peux dire que après que nous puissions vivre toutes ces situations, ces catastrophes, ces atrocités commises par ces groupes armés, juste quand le président est passé, il a fait cette annonce qu'il a demandé à ceux que ces milices là puissent déposer. Comme ils ont un peu de confiance, un peu d'espoir avec le nouveau gouvernement, c'est pour cela que vous avez remarqué qu'il y a quelques groupes armés qui commencent maintenant à déposer. Maintenant, monsieur le journaliste, il y a un problème. Juste, il y a toujours des demandes que ces jeunes gens, ces troupes, ces groupes armés puissent déposer. Maintenant, ce qui vient après. Parce qu'on a remarqué qu'on a demandé au groupe armé de venir déposer les armes. La continuité maintenant, c'est là où il y a les problèmes. Et aussi, moi, je voulais peut-être dire à d'autres compatriotes, parce qu'il y a des endroits, par exemple, là où nous vivons, prenons les cas, par exemple, du Nord Kivu, où ce sont ces groupes armés-là qui sont en train d'administrer des territoires, qui sont en train d'administrer des localités. Là, il n'y a même pas présence de la police, il n'y a pas présence de l'armée. Et aussi, ils se disent qu'ils sont là pour l'autodéfense. Parce qu'il y a des endroits, par exemple, si je peux vous citer, par exemple, vers Nyanza, les Matsudi, par exemple, au Pieng, là, il y a des étrangers qui sont là. Nul n'ignore qu'ici, nous avons, par exemple, les FDLR qui sont là. Et ils se disent qu'ils sont là pour sécuriser la population. Moi, je pense que c'est bon de demander à ces gens de déposer les armes. Plus, le gouvernement devait prendre alors des dispositions d'abord pour que l'autorité de l'État puisse d'abord être mise partout. Parce qu'il y a des endroits où vous arrivez, monsieur le journaliste, il n'y a pas l'autorité de l'État. Ce sont des groupes armés là qui dirigent. Si ce n'est pas, et ce sont des FDLR. Je pense que tous ceux-là qui vivent à Goma, ils savent à Masisi. Il y a des coins où, par exemple, à Nyanzale, il y a, par exemple, des coins comme à Tongo où l'autorité de l'État n'existe pas. il y a juste le déploiement ponctuel des forces armées, mais je pense que l'autorité de l'État devait d'abord plus prendre des dispositions. Ils demandent à ces gens-là de déposer les armes. Ils doivent aussi chercher les moyens pour sécuriser toutes ces parties-là de notre territoire. Sinon, c'est un problème sérieux. Parce que même la population locale aussi, parfois, ils appuient ces groupes armés pour leur sécurité. Moi, je pense que nous devons prendre des dispositions et aussi l'accompagnement de ces groupes armés-là. Moi, je pense que c'est qu'il faut vraiment prendre ça au sérieux. Sinon, et aussi, je voulais demander à ceux que les autorités puissent appuyer l'idée du chef de l'État. Moi, je pense qu'on doit inscrire les histoires d'aller désarmer parfois parce que ce sont des autochtones. Moi, je pense qu'on doit plus coopérer avec les autorités locales, les leaders locaux des communautés. Parce que nous vivons ici à l'Est où nous travaillons. Vous allez voir, vous travaillez avec quelqu'un au chantier la journée, il est journalier, il est un tout travaux. Mais le soir, il rentre, il a son arme, donc sa communauté le couvre. Moi, je pense que les gouvernements ou les autorités doivent vraiment chercher les moyens de plus coopérer, d'avoir la confiance des autorités locales. Et ces autorités locales-là doivent maintenant convaincre ces jeunes gens du village. Il y a des endroits, monsieur le journaliste, je vous parle, même vos journalistes savent ça, pour accéder dans de tels endroits, par exemple, dépasser Mouesso, dépasser Pinga, vous êtes obligé d'avoir l'autorisation d'un responsable de groupe armé. Là, il n'y a pas la police, vous êtes obligé de se soumettre à ça. Je pense que l'idéal serait de coopérer plus avec les autorités locales qui doivent sensibiliser et surtout, ce que j'insiste, et surtout que le gouvernement puisse maintenant proposer les relèves. Parce que ces gens-là ne doivent pas quitter, laisser leur communauté et juste va exposer ces gens-là aux mains des FDLR qui vont commencer à les massacrer. Moi, je pense qu'on doit prendre vraiment des dispositions pour sécuriser d'abord la population. Ils vont déposer parce qu'ils se posent aussi des questions. Nous allons déposer l'arme. Maintenant, les FDLR qui sont encore dans notre milieu ici, qui va protéger notre population? Voilà un peu le problème que nous avons ici à l'Est, mais les gens doivent savoir ça parce qu'ils vivent lointain, mais ils ne savent pas vraiment les réalités que nous vivons ici. Moi, je pense que le gouvernement, nous appuyons cela, que le gouvernement puisse vraiment chercher à prendre des dispositions pour sécuriser sa population. Je vous dis et je vous remercie.
Merci beaucoup, Bathier. C'est très très intéressant l'ensemble de propositions sur cette question. Vous êtes revenu sur le désarmement forcé pour dire que non, nombreux d'ailleurs, hein, ils appartiennent à la communauté, ce sont des peuples. Alors ça va être aussi difficile. Comment il faut gérer toutes ces questions? Mais c'est une question de confiance, de petite confiance quand même envers les nouvelles autorités, quitte à prendre des mesures pour consolider cela, mais pour aller encore un peu plus loin. Vous avez évoqué beaucoup de localités qui sont aujourd'hui administrées par les groupes armés au Nord Kivu, ce qui est un problème très très sérieux. Il faut qu'on arrive vraiment à cette question de la restauration de l'autorité de l'État à travers le pays. Merci beaucoup, Bathier. Dieudonné, vous êtes à Haro. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bien, bonjour, c'est Dieudonné Tchamba, le territoire d'Haro de Kandoï. Voici d'abord les causes de ces groupes miliciens qui se sont appelés en RDC. Alors, demain, nous avons d'abord les causes comme suivante, pour nos études et complicité des services dans la frontière. Nous avons aussi deuxième cause, le chômage. Troisième cause, le tribalisme. Quatrième, nous avons pensé foncier, vente des armes, intégration sociale de certains groupes. Nous avons une cause politique, cause économique. Toutes ces causes-là ont vraiment un impact négatif sur la population. Comme celui-ci, je proposerais ceci, il faudrait que les désarmements volontaires et que le gouvernement fasse force, qu'on puisse vraiment imposer la force, comme ça qu'il sera vraiment des armées, qui soient désarmés par force, que l'autorité congolaise montre sa force, que peut-être un travail sans relâche, que le service de renseignement soit aussi plus élargi, traquer les auteurs et les responsables de ces miliciens et les punir sans faille vraiment. Il faudrait qu'on renforce aussi les mesures de contrôle des frontières et des fouilles et des personnes qui ont la guerre aux frontières. Vraiment, ce sont là vraiment quelques points de vue de ma part.
Merci beaucoup, Dieudonné. Marcel, vous êtes à Luisa, merci de nous avoir rejoints. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, merci Monsieur Pierrot et la MJ. Merci également de m'avoir associé à ce débat républicain. Pour moi, Monsieur Pierrot, cette réédition des groupes armés, c'est en même temps une interpellation, mais aussi un grand défi pour les gouvernements et aussi surtout pour les chefs de l'État qui m'écoutent en ce moment-là et que je salue, qui doit mériter donc Ce défi doit mériter une gestion efficiente, Monsieur Pierrot, pour que l'on puisse escompter aux résultats favorables de pérennisation de la paix tant souhaitée. Alors, pour que l'on puisse remédier, qu'est-ce que j'ai dit? Pour qu'on puisse bien gérer cette situation, que les gouvernements et l'ensemble de ses partenaires puissent saisir de cette opportunité afin de bien encadrer et intégrer ces derniers équitablement, tout en répondant favorablement à leurs revendications normales, que vous connaissez vous-même, c'est-à-dire création d'emplois, amélioration de leurs conditions socio-économiques et aussi professionnelles. Je pense que ça ira beaucoup plus mieux. Cependant, il s'observe que certains miliciens, comme les amis l'ont dit, continuent à garder les armes des terreurs pendant la nuit et pour semer la terreur pendant la nuit, Monsieur Pierrot. Ainsi, il aurait fallu que l'on se rassure réellement qu'ils ont déposé toutes les armes. En ce moment-là, la population peut vivre en toute quiétude. Il faudra également qu'il y ait une redynamisation multidimensionnelle, surtout la réparation des victimes, Monsieur Pierrot, des familles aussi, des familles des victimes aussi. Je pense que ça sera aussi une bonne histoire. Mais cependant, également, enfin, ce n'est donc pas pour autant qu'il faudrait, Monsieur Pierrot, qu'on cède vraiment à toutes leurs caprices exagérées avec des exigences démesurées, et voire ne pas interpeller, juger et condamner les auteurs de grands crimes, Monsieur Pierrot. Je pense qu'à cela aussi doit s'ajouter l'implication de l'État, qui doit aussi discipliner. Il n'y a pas que ces miliciens qui sont indisciplinés, et même les militaires, ils vous tracassent partout. Donc il faudrait que vraiment l'autorité de l'État revienne. C'est comme ici à Luisa. Vous allez voir les militaires qui se promènent la nuit sans autorisation de leur hiérarchie pour qu'ils puissent seulement tracasser la population et les paisibles voyageurs qui voyagent. Je pense que dans ces pays, nous devons revoir vraiment les mesures de travail. Je pense que ça ira bien comme ça. Monsieur Perrault, je vous dis merci et bon début de week-end.
Merci et bon début de week-end à vous aussi, à Luisa, au Kasaï Central. Et nous faisons un pont vers Fongouroumé. Justin, merci d'être avec nous dans Parole aux auditeurs. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierrot, et je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Capine.
On vous écoute.
En tout cas, c'est une question très pertinente puisque ça a trait à l'insécurité du pays. En écoutant Monsieur le Président Félix Tshisekedi, c'est un monsieur très ambitieux. Ça, je l'ai dit sans toutefois faire des coquetteries, même sans facir. Je le déclare en l'écoutant parler, c'est un monsieur très ambitieux qui va mettre fin à l'insécurité dans notre pays du Congo. Les milices, ils trouvent leurs racines dans des balades de militaires qui ne sont pas contrôlés. Imaginez un militaire qui reste dans un millier, il a même 20 ans sur ce millier, il n'a jamais été imité, il ne part jamais en mission. Donc ses missions, c'est partir dans des fins fonds. Et il trouve, lui-même se rend, il est jugé, il est OPJ, il tranche des problèmes, on lui donne quelque chose, il arrive à la maison. Alors les voisins, en les voyant, donc commence à dire que non, peut-être c'est là où on peut se retrouver comme on manque d'emploi. Et je ne sais pas, parce que je n'ai jamais trouvé un document des militaires, ou soit faire une formation des militaires. Il peut y avoir une déontologie militaire. Imaginez avec un milice qu'on va démobiliser. C'est sur base. D'abord, c'est quelqu'un qui s'est porté garant pour la mort en pillant les histoires et les biens d'autrui. Alors, on va les prendre et lui donner armes. C'est l'outiller de plus afin qu'il puisse matérialiser ses ambitions. S'il faut les intégrer, monsieur le journaliste, il faut qu'il y ait des paramètres, juger d'abord qui est-ce qu'on va intégrer, c'est quelqu'un qui a quel niveau d'études. On prend n'importe qui pour intégrer dans la police. Ce sont des fléaux qu'on est en train de vivre actuellement, monsieur le journaliste. Si on peut revoir quelqu'un qui c'est un malfaiteur, il commet des forfaits, pas l'intégrer, on les met en prison, on les garde. Il y a des gens qui se rendent justice eux-mêmes. Il a l'arme qu'il détient. Je ne sais pas si ces armes sont contrôlées aussi par leur hiérarchie ou pas. Donc les gens tuent les racines en voyant ces gens qui quittent leur maison. En rentrant, il amène des coques, des chèvres à sa femme. Et sa femme, d'habitude, il rentre la nuit. C'est tout ça que je suis en train de dire ici, monsieur le journaliste. Pour vous, c'est une question qui peut être, ça peut dépasser votre entendement. Mais ce sont des cas réels vécus chaque jour ici au fin fond du Congo. Parce que là où vous êtes au centre, nous sommes à l'intérieur du Congo. Nous ne sommes pas, nous sommes à l'extérieur du Congo. Ce qui se passe ici, avec un adage qui dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Si leur dirigeant est à Kinshasa et voit que c'est très loin, qui va les faire parvenir ce que je veux faire sur personne. Donc il se livre à faire du n'importe quoi, sans respecter sa hiérarchie et sans respecter les droits de l'homme. Quelqu'un ose les torts dans une famille qui nous dit peut-être qu'un seul $2 par jour, mais lui lui demande des $100 pour, je ne sais pas, que pour un problème là qui ne pouvait même jamais coûter, qui coûtait même les amendes de 50 000 francs ou soit de 20 000 francs. Mais il moissonne $200. Imaginez quand les voisins sont en train de voir une merveilleuse vie que ce gens mènent dans des balades. Donc ils s'attellent aussi à aller dans ce sens. Et il y a les autres qui ne veulent pas. Il y a ces gens-là qui sont animés d'une bonne voix. Par exemple, je donne l'exemple de Maïmaï dans le territoire de Bukama, là au fond, là du côté Manon. C'est en voyant que les militaires ne défendaient pas la population. Eux-mêmes s'étaient frappés la poitrine de défendre leur village. Et si aujourd'hui, ils ne sont pas encadrés, ils commencent à se livrer aussi à faire du n'importe quoi, puisqu'il n'y a pas une déontologie, et leur mission, peut-être, c'est déjà terminé. Et si vous allez l'intégrer, qu'est-ce qu'il fera dans l'armée? Il n'a pas, ce n'est pas sa vocation. Peut-être qu'il était animé par du vol, par seulement. Il y a ces gens qui se glorifient seulement quand ils portent la tenue. C'est un petit dieu. On l'aime, on les glorifie, on les craint partout. Il prend même des femmes d'autrui. Alors, c'est les éloges-là. Si on commence à freiner, en tout cas, je retourne cette question à monsieur le président de la République. En l'écoutant parler, c'est un monsieur très ambitieux, qu'il mette aussi ça sur cet aspect des choses. Ça pourra vraiment amener notre pays république à un pays exemplaire en Afrique. Comme nous avons des richesses, et puis nous pouvons aussi changer nos mentalités, nous conformer conformément à des gens qui raisonnent normalement, en tout cas ça serait une très bonne chose.
Merci.
Et je vous remercie.
Merci beaucoup, Justin. Cette question que vous avez évoquée, beaucoup sont revenus sur la question de contrôle au sein de forces armées pour savoir qui sont affectés où, qu'est-ce qu'ils font. Il y en a qui circulent, vous l'avez dit, dans le Congo profond avec des armes. Et des fois, il est difficile de savoir où ce groupe armé tire-t-il, n'est-ce pas? Ils ont des tenues, ils ont des armes. Mais si le contrôle est aussi strict au sein de FRDC, il y a moyen de pouvoir mettre fin à certaines collaborations si jamais. Mais elles existaient. Merci beaucoup. Mais vous avez quand même salué l'intention du chef de l'État souhaitant qu'avec cette intention, on peut y arriver, mais quitte à pouvoir aller jusqu'en profondeur et savoir ce qui se passe non seulement dans les milieux où nous sommes, la capitale, mais aussi surtout dans le Congo profond. Merci beaucoup. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur Thiro. Bonjour également à la pertinence. Je vous remercie à la pertinence de ce sujet. Je pense qu'il revient au chef de l'État, au jour d'aujourd'hui, d'essayer un peu d'assainir l'espace de l'armée parce qu'il y a à boire et à manger au jour d'aujourd'hui. Parce que vous n'avez qu'à voir au jour d'aujourd'hui qu'il y a beaucoup de désordre dans ce secteur. Nous sommes ici à Lubumbashi, il faut voir. La population est presque entourée de militaires. Comment voulez-vous, dans un seul quartier, on peut avoir et la population mélangée avec les militaires. Or, les militaires doivent être au camp. Voilà pourquoi il y a problème d'insécurité au jour d'aujourd'hui. Je pense que cette mesure de réinsertion n'est pas la bienvenue pour le moment opportun ici, parce que lorsque vous essayez un peu de mettre ces gens dans la société, vous vous rendez compte que ce sont ceux-là qui amènent les armes là où il y a la population. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut que les militaires restent dans leur caserne. Ils doivent rester au camp. Parce que lorsque les militaires sont là où il y a la population, il y a vraiment un désordre total. Il y a même certains politiciens au jour d'aujourd'hui qui sont en train vraiment, de manière délibérée, de créer un peu l'insécurité au milieu de la population. Voilà pourquoi on assiste dans ce désordre. Là, je préfère qu'il est plus que temps, le chef de l'État doit monter au créneau, prendre des mesures qui s'imposent, question de remettre des choses sur le bon rail. Sinon, on assisterait à l'arbitraire et les choses ne vont pas
marcher au jour d'aujourd'hui. Alors, Pierrot, il y a aussi certaines choses. Il faut que le président revoie aussi les gens qui travaillent sur le plan régional. Il y a des pays qui nous environnent qui sont en train aussi en même temps de s'impliquer dans tout ce qu'on assiste à l'est et à gauche à droite. Je pense qu'il faut que le président commence d'abord par un et restaurer un peu une relation ou des relations avec certains pays qui nous environnent, de deux, restaurer un peu l'autorité de l'État, surtout qu'il est tendu dans la tête. Même ici à Lubumbashi, il y a de l'autre côté, je ne sais pas, il y a des militaires, il y a aussi des pygmées qui sont là en train de semer la terreur. Il faut plus retenir aussi, prendre en compte les revendications de tous ces groupes armés qui nous environnent, question de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, les militaires sont payés à monnaie des singes. Ils ne sont pas mieux payés. Il faut revoir comment il faut payer les militaires. Et si on paye bien les militaires, je pense qu'on n'assisterait pas à des troubles à gauche, à droite. Si nous arrivons à mettre ces choses sur le plan, et je pense que les choses iront mieux, il revient également aux députés de voter quand même les lois en faveur de ces militaires qui, quand vous regardez leur tableau, est presque sombre, avec un paysage vraiment qui n'est pas à la hauteur. Voyez un peu même les policiers aujourd'hui, comment ils sont payés, comment ils vivent. Un policier qui est payé à 85 000 francs, comment est-ce qu'il va assurer la sécurité dans ce pays si vaste que nous voyons? Est-ce qu'il faut seulement payer mieux les députés pendant que les faits qui sont censés être aussi bien gérés ne sont pas vraiment bien se retrouver? Et voilà pourquoi on assiste aujourd'hui à des guerres à gauche, à droite.
Merci beaucoup, Jérémy. On va terminer avec vous, Serge. Vous êtes à Kamina. Beaucoup de points de vue très très intéressants dans cette émission autour de la question de groupes armés, surtout les propositions en ce qui concerne la réussite de la démobilisation, de la rétention elle-même. Serge, quel est votre point de vue pour terminer cet échange?
Bonjour bien-aimé Pierrot, bonjour à tous les millions auditeurs de la radio Capi qui nous écoutent à ce moment. Bon, je m'en vais un peu rapidement puisque mes prédécesseurs m'ont déjà presque vidé. Il y a un certain problème, je m'inscrivais toujours en faux par rapport à celui qui a dit, et il a parlé de mobiliser là de Boukam. Ce sont les gens qui ont tué des familles, qui ont endé des familles en famille. Ils doivent répondre de leurs actes, n'est-ce pas ça? Et quelqu'un qui a déjà commis beaucoup de forfaits, vous allez même le glorifier, vous l'accueillez comme un prince là. Il peut encore, qu'est-ce qui peut l'empêcher un autre jour que non, je peux encore retourner là-bas, je l'ai fait puisque j'ai toujours été accueilli et je suis félicité dans cette histoire. En droit, il est dit, quand vous causez préjudice, vous devez réparer. Et je demande même à des familles là qui ont été endéées là, doivent dénoncer aussi quelque part. Et notre gouvernement doit beaucoup s'investir en cette sécurité-là. C'est quoi? Quand vous allez au Kassai, je vois que le milicien là, qui ont tué les Kassaïens, ce sont en fait toujours Kassaïens, ici au Katanga. Les Louba là, qui mangeaient même les gens, ce sont toujours les Louba qui se mangeaient eux-mêmes. Quand vous allez là avec les M23, ce sont les Gomatraciens, les Kivusiens qui sont en train de se tuer. Même si les ennemis entrent maintenant par leur billet, ils ont profité de leur faiblesse. Moi, je veux que, une fois ils sont démobilisés, et qu'ils sont bien recrutés, on détecte que celui-ci est de tel coin, pour l'imiter, il faut peut-être le mettre, celui qui était de Goma, on le met peut-être à Lubumbashi, celui de Lubumbashi, on peut le mettre du côté de la Lissala. Là, je vois que ça peut aller. C'est un peu ma petite contribution que j'avais par rapport à ce thème.
Merci beaucoup. Merci Serge de Kamina. Merci, vous avez été nombreux. On poursuit le débat d'ailleurs sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs autour de cette question des redditions de miliciens et membres des groupes armés. Beaucoup de propositions pour réussir cela. Nous vous disons merci. Je crois qu'on va se retrouver le lundi pour un autre numéro de Paroles aux Auditeurs.
Allô? 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 Mais, ils ne répondent pas?